La lecture ce matin se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 5. Nous poursuivons notre série de prédications dans l'évangile de Marc. Marc 5, premier verset. Évangile de Marc, chapitre 5, premier verset. Jésus et les disciples arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortit des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il a cassé les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans le tombeau et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. « Que me veux-tu, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en supplie au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » En effet, Jésus lui disait, « Sors de cet homme à esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, » répondit-il. Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons le supplièrent, « Envoie-nous dans ces porcs, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, aussitôt. Les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyèrent dans le lac. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent le raconter dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion de démons, assis, habillé et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux porcs. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à l'accompagner. Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à proclamer dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'étonnement. Voici la parole de Dieu. Certaines personnes ici présentes savent qu'avant que je vienne en France, j'étais employé dans une banque. Et en tant qu'employé, ça choque certains peut-être, en tant qu'employé de banque, en Écosse en plus, eh bien, mon ambition était de devenir directeur. Et pour devenir directeur, il a fallu que je comprenne surtout deux choses, la comptabilité et le droit. Le droit écossais, qui n'est pas la même chose que le droit anglais. Des différences notables. Donc, j'ai suivi des cours du soir pour comprendre la comptabilité. Et lors du premier cours sur la comptabilité, le prof a dit, « Bon, écoutez, on n'était pas des enfants, tous adultes, écoutez, les étudiants, j'ai un petit test, un petit examen, et j'ai des questions. » D'accord? J'ai détesté les examens. Et il a dit, « Écoutez, pour vous rassurer, les questions sont simples. » Ouf, de soulagement. Mais il a dit, les réponses sont compliquées. Quand il a commencé avec les questions, je me suis rendu compte, pas seulement les réponses étaient compliquées, mais j'avais du mal à comprendre certaines questions. Donc j'étais mal barré. Ce soir-là, j'ai pris le train pour rentrer chez mes parents, là où j'habitais. Et qui était dans le train? Mais le prof de compta. On a discuté et je me suis rendu compte qu'il habitait à 200 mètres de chez mes parents. Expliquant mes problèmes avec la comptabilité, il a dit, mais écoute David, viens chez moi une fois par semaine, une heure, gratuitement, je vais t'aider à comprendre les bases de la compta. Et grâce à lui, et grâce au Seigneur, j'ai réussi tous mes examens de comptabilité. Alors, pourquoi est-ce que je raconte cette histoire vieille de 40 ans, plus de 40 ans? Eh bien, tout simplement, c'est parce que dans cette histoire, on va se poser des questions. Des questions selon ce texte qu'on vient de lire. Et je peux vous rassurer, les questions sont simples. Et je peux vous promettre, les réponses sont simples. Parce que je suis un homme très simple. Les questions, les voilà. Quand, où, qui, quoi, comment, pourquoi, conséquences. Si quelqu'un ici a du mal à comprendre le sens de chacun de ces mots, eh bien, venez me voir à la fin du culte. Les questions sont simples. Quand est-ce que cet événement a eu lieu? Eh bien, cet événement a eu lieu juste après quelque chose et juste avant quelque chose. Cet événement, ce miracle a eu lieu juste après que Jésus a calmé la tempête. C'était le thème de la prédication de Colin dimanche dernier. Le message est sur le site de notre église. Écoutez-le si vous voulez être aidé dans vos tempêtes. Parce qu'il y a eu la tempête sur le lac, mais nous avons tous des tempêtes dans notre vie. Et pour connaître le calme et la paix que Jésus seul peut donner, eh bien, écoutez ce message et lisez ce texte, comment Jésus a calmé la tempête. Et Jésus n'est pas appelé le prince de la paix pour rien. Parce que lui seul peut nous apporter une paix durable. Et cet événement a eu lieu juste avant un miracle de guérison d'une femme malade depuis des années et aussi juste avant la résurrection d'une petite fille, la fille de Jaïrus, le chef de la synagogue. Première question, première réponse. Où est-ce que cet événement a eu lieu? Alors, nous avons lu au premier verset, dans le pays des Gadaréniens, au bord du lac de Galilée. Donc, on est dans le nord d'Israël. Et ce lac se situe dans le nord. Et ce lac est appelé parfois une mer, la mer de Galilée, le lac de Galilée, le lac de Génézareth, le lac de Tibériade, et un autre nom dans l'Ancien Testament, le lac de Kinneret. En tout cas, c'est le même endroit, avec plusieurs noms différents. Et ça se passe donc juste au bord de ce lac. Troisième question. Mais de qui s'agit-il? Qui est dans cette histoire? Eh bien, il y a d'abord, bien sûr, Jésus. Je dirais le personnage central. Jésus, qui est appelé dans ce texte le Fils du Très-Haut, mais il est appelé, je crois, 8 fois, tout simplement, Jésus. Nous savons que Jésus est appelé Jésus, nous savons qu'il est appelé aussi Emmanuel, nous savons aussi qu'il est appelé la lumière du monde, l'agneau de Dieu, le sauveur, le bon berger, etc. Mais ici, on met l'accent sur Jésus qui vient. Ensuite, il y a un homme malade, un homme misérable, un homme malveillant, un homme malmené, un homme troublé, un homme terrifiant, mais un homme transformé et un homme qui devient un témoin de Jésus. Dans le récit selon l'évangile de Matthieu, il nous informe que cet homme était un homme dangereux. Tout le monde avait peur de cet homme. Est-ce que vous savez comment il s'appelait? Non, moi non plus. Il fait partie de ces 100 noms dans la parole de Dieu. Comme l'esclave chez Naaman, comme le garçon qui a donné son pique-nique à Jésus, comme le malade qui a été emmené par 4 copains chez Jésus pour être guéri et pardonné. Il y a beaucoup de 100 noms dans la Bible, mais ça n'a aucune importance. Il y a des chrétiens qui cherchent à avoir un nom, une réputation. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte n'est pas d'être connu, ce qui compte c'est d'être fidèle. Dans notre coin, là où Dieu nous a placés. Il y a un esprit impur, parfois appelé des esprits impurs, des mauvais esprits, des démons. Cet homme était un démoniaque, c'était un homme qui était démonisé. Et il y a les porchers, les gardiens des porcs. Alors, s'il s'agit des Juifs, ils étaient en contradiction avec la loi. Garder des porcs, des cochons, pour vendre. Il y a la foule. Il y a les témoins oculaires, les témoins qui étaient là, et la foule, les habitants des villes et des villages qui se sont déplacés et qui ont retrouvé cet homme assis, habillé et dans son bon sens. Personne ne l'avait vu assis avant, personne ne l'avait vu habillé et personne ne l'avait vu dans son bon sens. Et il est écrit, et c'est une particularité de l'évangile de Marc, il est écrit qu'ils étaient dans l'étonnement ou la stupeur. Très souvent dans l'évangile de Marc, nous lisons les sentiments des gens qui rencontrent Jésus, qui aiment Jésus ou qui détestent Jésus. Marc nous parle de leurs sentiments. Alors, que se passe-t-il au juste? Quoi? Que se passe-t-il dans ce récit? Eh bien, on va revenir à ça dans 2 minutes. Jésus chasse les démons. C'est-à-dire, il ordonne aux mauvais esprits de sortir du corps de ce pauvre monsieur. Et les démons, même s'ils étaient des milliers, obéissent. Ils ont dit, nous sommes légion. Vous savez, une légion de soldats romains était composée de 6000 soldats, armés jusqu'aux dents. Alors, qu'ils étaient 6000 ou pas, en tout cas, ils étaient nombreux et ils obéissent à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est le Tout-Puissant. Et il est normal que les démons obéissent à Jésus. Ensuite, il y a ce troupeau de cochons qui se noient tous dans le lac. 2000 cochons noyés dans le lac. Et puis, il y a bien sûr cet homme, comme je viens de dire, il est habillé, assis dans son bon sens, il est paisible, il est soulagé, il est transformé. Par contre, les gardiens des porcs étaient furieux, une colère noire, pour plusieurs raisons, comme on peut imaginer, mais une colère noire. Donc on peut dire, les démons, out, dehors. Les cochons, KO. L'homme, OK. Ou plus que OK, ou mieux que OK. Et les porchers, aïe. N'étaient pas contents. Voilà le quoi. Mais pensons à la question, comment? Comment cela se passe? Eh bien, Jésus parle, Jésus voit, Jésus aime. Jésus voit ce monsieur parmi toute la foule qui était là, Jésus le voit. Jésus lui parle. Si Jésus le voit parmi tous les autres, si Jésus lui parle, c'est parce que Jésus l'aime. Je peux vous dire ce matin, je ne vous connais pas tous, mais Jésus vous voit, Jésus vous aime, et Jésus veut, souhaite, aimerait, tient à vous parler. Qu'est-ce qu'il pourrait vous dire? Eh bien, il pourrait avoir envie de vous encourager, de vous réconforter, de vous avertir, de vous reprendre, de vous montrer vos péchés et de vous montrer son amour. Jésus voit cet homme, Jésus parle et Jésus aime cet homme. Et c'est vrai pour chaque personne ici ce matin, pour chaque enfant à côté ce matin. Le comment? Le pourquoi? On est déjà à la sixième question sur sept, c'est pas mal, hein? Pourquoi est-ce que ça se passe? Eh bien, je dirais qu'une raison pour laquelle nous avons ce texte, c'est parce que beaucoup de Lyonnais ressemblent à cet homme-là, à un certain degré. C'est-à-dire, beaucoup de Lyonnais sont attirés vers des œuvres occultes, sont sous l'influence, je dirais, des démons. Alors, si vous rencontrez quelqu'un qui est troublé par les démons, qu'est-ce qu'il faut lui faire? Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Est-ce qu'il faut appeler un prêtre exorciste pour qu'il vienne avec de l'eau bénite et un crucifix pour chasser les démons? Surtout pas. Est-ce qu'il faut venir une diseuse de bonne aventure? Surtout pas. Est-ce qu'il faut venir une bonne sœur, une religieuse, qui va prier la Vierge Marie, qui va prier tous les saints sous le ciel et donc au ciel? Surtout pas. Il y a un texte frappant dans le deuxième épître de Paul à Timothée par rapport à ceux qui sont troublés ou qui ont été piégés, c'est ça le terme utilisé, piégés par Satan. Et il est écrit, texto, ce que la personne qui est piégée par Satan, ce que la personne doit faire. Je vais mettre un texte sur l'écran. Le serviteur du Seigneur doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude, c'est-à-dire de se repentir, pour connaître la vérité. Revenu à leur bon sens, c'est curieux, le bon sens, hein? Marc 5, ici 2 Timothée 2, revenu à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à la volonté du Seigneur. Ici, il est question de se repentir, c'est-à-dire de se détourner de tout ce qui nous empêche d'aimer le Seigneur ou de suivre le Seigneur. Et ça peut vouloir dire prendre des décisions radicales, draconiennes. Parfois, on doit jeter des choses, brûler des choses, détruire des choses que nous avons à la maison qui nous empêchent de suivre le Seigneur. Je vous décourage de vendre ces choses-là et de donner l'argent à la collecte de ton église. C'est une façon de faire, mais je vous décourage. La meilleure chose, c'est de brûler et de jeter. Ce monsieur-là était un monsieur démonisé. C'est le terme qu'on emploie aujourd'hui par rapport à ceux qui sont sous l'influence du diable. Et puis, bien sûr, il y a plusieurs degrés dans la démonisation. Mais on doit éviter l'erreur de voir des démons partout et de voir des démons chez tous les chrétiens. Surtout pas. Et on doit aussi éviter l'erreur de vivre dans la peur. Superstition. Il y a une superstition évangélique qu'il faut chasser, qu'il faut bannir. Le Seigneur nous connaît et le Seigneur veut nous aider avec les mauvaises influences autour de nous. Et il faut aussi surtout éviter de dire « Ah, si j'ai commis tel péché, c'est le démon qui m'a poussé. » C'est facile. C'est pas ma faute, c'est sa faute. Si j'ai commis un péché, c'est moi qui suis le seul responsable et le seul coupable. Les non-chrétiens ont besoin de se repentir, de changer d'attitude, de se dégager, j'aime bien ce terme, se dégager des pièges de Satan pour connaître une vie nouvelle en Jésus-Christ. Et c'est peut-être ce que vous avez besoin de faire aujourd'hui, si vous n'êtes pas au Seigneur. Être dégagé des pièges de Satan. Je vais mettre sur l'écran quelques pratiques courantes, et je ne vais pas expliquer chaque mot, qui se font aujourd'hui à Lyon, chez vos voisins, chez mes voisins, dans nos familles, des pratiques occultes qui aveuglent et qui tiennent en esclavage des gens que vous connaissez et peut-être que vous aimez. Et nous devons prier pour les gens qui sont pris dans ces pièges. Le spiritisme, le fait de consulter un médium pour entrer en contact, soi-disant, avec l'esprit d'un défunt. La chiromancie, prédire l'avenir selon les signes de la main. La numérologie, certains magasins de vêtements de femmes proposent une étude de vos numéros liés à votre date de naissance, date de mariage, pour vous proposer des habits. La divination, lire les marques de café ou de thé au fond d'une tasse, ou les boules de cristal, la voyance. La cartomancie, prédire l'avenir avec des cartes. L'ouija, le verre sur une table avec les lettres de l'alphabet autour, et on pose des questions. La magie blanche, la magie noire, l'horoscope. Oh, je ne crois pas à l'horoscope, mais quand même, je le dis tous les jours, au cas où. Combien de personnes nous disent ça? Moi, je ne le dis pas. Hein. Mais combien de personnes, oh, je ne crois pas, mais je veux voir ce qui m'arrive aujourd'hui. Il ne faut pas lire 10 horoscopes de 10 journaux différents, sinon on perd la boule parce qu'on a 10 contradictions. La télépathie, magnétisme, les rebouteux, certaines médecines dites parallèles. Tout cela peut être des pièges, ou tout cela sont des pièges. Et nous devons veiller, et nous devons prier, et parfois avertir nos amis des dangers. N'ayons pas peur de dire « ça, n'y touche pas, là, n'y va pas ». Et si le non-chrétien nous demande pourquoi, ben, on explique. Et on peut prier pour la personne, et parfois on peut prier avec la personne, pour que la personne n'y aille pas. En tout cas, tout ça pour dire que Jésus est plus fort que le diable. Et ne croyez jamais le contraire. Lorsqu'il a calmé la tempête, il s'est montré plus fort que la nature, que les éléments, que le vent, que la pluie. Dans le récit suivant, il est plus fort que la maladie, ensuite plus fort que la mort. Et ici, il est plus fort que les diables. Et lui seul peut nous libérer et nous pardonner. C'est ça le besoin fondamental de chacun, d'être pardonné. Septième question, quelles sont les conséquences? Ben, il y a une conséquence négative et une positive. Et les deux sont « va-t'en ». Les gens viennent voir Jésus et ils disent « va-t'en ». On ne veut pas de toi dans notre ville, dans notre région. C'est grave, grave de dire à Jésus « va-t'en ». C'est grave d'éliminer Dieu d'un pays. C'est grave de dire « Dieu, on ne veut plus de toi ». On est content, on va se débrouiller tout seul. Va-t'en, ont-ils dit à Jésus, les habitants du village en colère. Et puis, il y a un aspect positif. Va-t'en. C'est Jésus qui le dit, pas plus ou moins. Va-t'en. Va dire aux tiens ce que le Seigneur a fait. Va parler de ma grâce à ta famille, à tes voisins. Je vais dire à tes collègues, mais j'imagine qu'il n'avait pas de collègues. Mais il allait avoir de nouveaux collègues peut-être. Jésus lui dit, va dire ce que j'ai fait. On a un texte semblable dans le livre de Jérémie, chapitre 51, où Dieu dit par la bouche du prophète Jérémie, va dire au peuple comment Dieu vous a fait grâce, comment Dieu a agi, comment Dieu est intervenu dans ta situation. Et ici, va-t'en. Et ce monsieur s'en va. Il obéit à Jésus. C'est un disciple, c'est normal. Il est devenu un esclave de Jésus. Chaque chrétien est un disciple. Chaque disciple est normalement un esclave. Il a choisi son nouveau maître. Certains savent qu'il y a quelques années, John MacArthur a écrit un énième livre. Il a soumis le manuscrit à ses éditeurs qui avaient publié tous ses livres, Thomas Nelson Limited, et ils ont lu le texte, ils ont contacté MacArthur pour dire, bon, c'est super le livre, mais on n'aime pas le titre, il faut changer le titre, ça ne va jamais se vendre. Et le titre était « Esclave ». Et la thèse du livre, c'était « Chaque chrétien est un esclave de Jésus-Christ ». Il a choisi d'être son esclave. Alors, MacArthur a répondu pour dire « Ben non, je ne change pas les titres ». Les éditeurs ont discuté en assemblée générale, ils ont répondu « S'il vous plaît, il faut changer les titres. Personne ne va acheter un livre qui s'appelle « Esclave ». Et MacArthur a répondu pour dire « Mais écoutez, moi j'ai une liste d'éditeurs qui sont prêts à imprimer mes livres. Donc, soit vous imprimez avec « Esclave », soit je vais ailleurs ». Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les responsables de Thomas Nelson? Ils ont répondu pour dire, nous avons décidé à l'unanimité que votre livre va s'appeler Esclave. Et il est en vente à la Maison de la Bible et à la CLC ici à Lyon. Esclave, parce que chaque chrétien est un disciple et un esclave de Jésus-Christ. Et cet homme-là, il devait faire la chose peut-être la plus difficile pour un chrétien. Être un témoin auprès des siens. Parler de Jésus à sa propre famille, à ses voisins, à son entourage. Ce n'est jamais évident d'être un témoin auprès des siens. D'ailleurs, le dicton aujourd'hui qui vient de la Bible dit « Nul n'est prophète dans son pays ». C'est un des peut-être cinquantaine de dictons qui viennent de la Bible. Mais il va et il évangélise la Décapole, et c'est un groupe d'une région où il y avait 10 villes, et ces 10 villes étaient des villes non juives, des villes grecques. Et certains commentaires disent, ah oui, mais cet homme-là, on ne connaît pas son nom, mais c'était le premier évangéliste auprès des non-juifs. On dit toujours, l'apôtre Paul était le premier évangéliste auprès des non-juifs. Mais ici, cet homme-là évangélisait des non-juifs. Un petit détail qui n'a aucune importance. Mais ce qui compte, c'est que cet homme qui était troublé a été transformé. Et un non-chrétien, même si le non-chrétien ne se sent pas trop troublé, il ou elle a besoin d'être transformé, de devenir une nouvelle personne en Jésus-Christ. Si vous pardonnez l'accent écossais, Drunken Duncan. Duncan l'ivrogne. Moi, j'ai eu le privilège de connaître cet homme quand j'étais adolescent. C'était un homme qui faisait 130 kilos. Il a été un bon pilier dans l'équipe de rugby d'Écosse. On aurait pu s'en servir hier soir, d'ailleurs. Bon, on ne parle pas de rugby ce matin. Et il faisait 2 mètres 10, 2 mètres 12. Et tout le monde dans sa ville le connaissait parce que c'était un ivrogne notable, un bagarreur notable. Dans sa famille, dans la rue, à la sortie du pub, tous les vendredis, tous les samedis, tous les dimanches, il se bagarrait. Et chose miraculeuse, Duncan a connu l'Évangile. Et il s'est rendu compte qu'il était un homme troublé, un homme terrifiant, vu sa taille et sa violence. Et je me souviens de ses biceps. Ouf. Ses biceps faisaient la taille de mon corps presque. Bon, peut-être j'exagère un peu. En tout cas, tout le monde était étonné de voir que cet homme, et il ne croyait pas qu'il s'était converti. Et son église, avant sa conversion, avait l'habitude... Tous les samedis, sur la place, enfin, il n'y a pas de place de la République en Écosse, mais sur la place centrale de la ville, ils avaient l'habitude de faire en plein air, c'est-à-dire de chanter et de prêcher l'Évangile avec des courts messages pendant que les gens entre les chants que les chrétiens chantaient. Et Duncan était souvent invité à venir, il était toujours là après sa conversion, et de temps en temps, il pouvait prendre la parole pour raconter son témoignage. Et savez-vous qui était son fan numéro un, qui venait très souvent le samedi quand il ne travaillait pas? C'était le commissaire de police. Parce que combien de fois il avait mis Duncan en tôle. Et quand il a su que Duncan s'est converti, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc il est venu une fois. Il est revenu une deuxième fois. Et plusieurs fois il est venu et il s'est rendu compte, mais c'est pas le même homme. Physiquement, il est presque pareil, sauf qu'il a un sourire et une douceur qu'il n'avait pas avant. Mais ce n'était pas le même cœur. Et Duncan, et il se disait Duncan, parce que ça rime, ça fait un peu de poésie. Duncan l'ivrogne. Mais Dieu lui avait tendu sa main. Duncan l'avait saisi. Il s'est donné au Seigneur. Il est devenu un témoin. Il est devenu un esclave de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il est auprès de son maître qu'il a servi pendant quelques années avec beaucoup de courage et beaucoup de zèle. Dieu peut changer le cœur d'un être humain. Dieu peut changer votre cœur. Dieu peut changer le cœur de quiconque. Nous devons prier. Et c'est à chacun de dire, mais Seigneur, regarde mon cœur. Qu'est-ce qui ne va pas? Montre-moi et mets-moi sur le chemin de l'éternité. Que le Seigneur nous aide à ne pas avoir peur des œuvres du diable. Nous sommes plus que vainqueurs grâce à Jésus. Mais que le Seigneur nous aide à prier pour les uns et les autres qui ont besoin d'être délivrés et de devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ces textes qui sont dans un sens tellement clair. Merci car tu as pris cet homme que tout le monde détestait, dont tout le monde en avait peur, mais tu l'as vu, tu l'as aimé, tu lui as parlé, tu l'as transformé. Merci pour ceux ici ce matin qui ont déjà été transformés par ton esprit. Mais nous prions que tu continues à nous transformer, à nous façonner, à nous permettre de ressembler de plus en plus à notre Sauveur bien-aimé Jésus-Christ. Et nous te prions de nous aider dans notre témoignage à avertir des dangers, des œuvres cachées, des œuvres occultes de Satan. Et aide-nous, Seigneur, à prier. Merci car tu nous as appelés, merci car tu nous as aimés, et merci car tu nous as accueillis dans ta famille. Merci pour ce temps ensemble, et nous te confions de nouveau les Gédions, merci pour ce ministère depuis 100 ans, et nous te prions surtout pour la semaine de distribution sur Lyon, pour que tu puisses accompagner nos frères et sœurs dans ce ministère si important. Merci pour ta présence et pour ta bénédiction. Amen. Amen.